Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Il y a 12 jours, l'administration américaine a eu le sentiment de se faire piéger par les producteurs de pétrole, les pays producteurs de pétrole plus précisément. En effet, l'OPEP+, qui regroupe les 13 pays exportateurs de pétrole menés par l'Arabie Saoudite et leurs 10 partenaires conduits par la Russie, a décidé de limiter la production de pétrole pour maintenir les prix à un niveau élevé. Cette décision a suscité la colère du président Joe Biden, accusant l'Arabie Saoudite de s'aligner sur les intérêts de Moscou et appelant à des représailles. Depuis, certains diplomates américains parlent de réévaluer les relations entre Washington et Riyad, et Joe Biden a déclaré que le mois prochain, au G20 qui se tiendra en Indonésie, eh bien, il ne rencontrera pas le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Alors si cette décision sur la production d'or noir témoigne d'une tension accrue entre les démocrates américains et les pays du Golfe, peut-on vraiment parler de retournement d'alliance, ou s'agit-il surtout pour l'Arabie Saoudite d'un choix économique assorti d'une volonté de la part des pays du Golfe de compenser l'implication déclinante des États-Unis dans la région entamée déjà il y a quelques années. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Fatia Dazi Eni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et vous êtes spécialiste de ces monarchies du Golfe. Fatia Dazi Eni, commençons par la décision donc de l'OPEP+, du 5 octobre, de limiter la production de pétrole à 2 millions de barils quotidiens à partir de novembre. Quels seront ses effets sur les cours mondiaux du pétrole ?
Alors, la décision de l'OPEP+, qui regroupe 23 pays, hein, si je puis me permettre de vous corriger, les 10 pays de l'OPEP...
C'est ce que j'ai dit, 10 plus 13
hein. Oui, 10 plus 13, c'est 23. Et qui est donc conduit par l'Arabie Saoudite et la Russie, hein, les deux pays phares de ce cartel qui a été constitué en 2016, pour essayer de réguler et de parer à la grande volatilité des cours pétroliers qui sont propres donc aux hydrocarbures. Et entre-temps, il y a eu, comme vous le savez tous, la pandémie, et il y a même eu une guerre des prix du pétrole en mars 2020, malgré l'existence de ce cartel. Donc, dans ce cartel, on peut également diverger d'avis, et c'était le cas entre la Russie et l'Arabie Saoudite au printemps 2020. Donc, cela juste pour expliquer que lorsque leurs intérêts divergent, ils peuvent et également se confronter durement hein, au sein de l'OPEP+, et notamment entre Riyad et Moscou. C'est pourquoi c'est vrai que la thèse de défendue par le Parti démocrate, surtout aux États-Unis, de dire que l'Arabie Saoudite s'est alignée sur la Russie dans sa guerre en Ukraine, dans cette décision de l'OPEP+, à mon sens, ne tient pas. Donc voilà. Alors,
On peut même remonter encore plus loin. On peut même remonter encore plus loin, si vous me permettez, Fatia Dazi Eni, puisque même en 2016, l'Arabie Saoudite et la Russie s'étaient déjà liés en fait une première fois, c'est toujours dans un objectif économique pour faire baisser les prix.
Oui, tout à fait, absolument. Et donc, depuis l'épisode 2020, la décision collégiale s'est plutôt bien passée. Et c'est vrai que, en ces temps économiques incertains, notamment depuis l'invasion par la Russie de l'Ukraine, les impacts économiques, les sanctions qui pèsent sur Moscou, etc., l'OPEP+ a voulu parer justement à la volonté des États-Unis et du G7 de plafonner les prix du pétrole pour sanctionner Moscou. Mais les pays de l'OPEP+ se sont sentis aussi menacés par cette volonté de plafonner les prix, d'où leur décision de réduire la production pétrolière, parce que c'est vrai que le prix du baril, s'il a explosé suite à l'invasion par la Russie de l'Ukraine, il est monté jusqu'à plus de $130, il a à nouveau baissé quand même à l'été autour de $80. Et c'était ce prix qui était pas acceptable pour les pays de l'OPEP+. Ils se sentent plus confortables avec un prix au-dessus de $90. Mmh. Donc, votre question, oui, ça a immédiatement eu un effet sur la hausse des prix, mais pas une hausse considérable. Hein. On est contre $80, on est autour de $92 aujourd'hui le baril. Mais Ça impacte bien sûr l'inflation des prix, et notamment en Europe. Hein, c'est l'Europe qui paye le prix le plus lourd de cette décision de l'OPEP+. Les États-Unis, Biden réagit de manière aussi virulente parce que, bien entendu, il y a les élections de mi-mandat du Congrès qui approchent et qui sont prévues le 8 novembre. Donc, lorsque cette décision de l'OPEP+, qui sera d'ailleurs effective à partir du 1er novembre, mais qui ne concerne en fait que, j'allais dire que, mais c'est déjà beaucoup, 1 million de barils jour, ces 1 million de barils jour sont essentiellement supportés par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Car les autres pays de l'OPEP+, dont la Russie, produisent en deçà de leur quota. C'est d'où la réaction épidermique, hein, bien sûr, de Joe Biden, qui risque gros, parce que il est déjà en difficulté pour ses élections. Il est évident qu'une hausse des prix du baril et donc de l'inflation aux États-Unis, c'est pas du tout un bon signe pour lui.
Alors vous l'avez dit, hein, la réalité, la colère de Joe Biden s'interprète surtout en perspective des échéances électorales du mois de novembre, donc les élections de mi-mandat, qui pourraient voir d'ailleurs les démocrates perdre leur majorité à la Chambre. Est-ce qu'on peut néanmoins revenir sur le partenariat stratégique historique qui lie l'Arabie Saoudite aux États-Unis depuis le pacte du Quincy de 1945, pardon. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots la base de ce contrat entre les États-Unis d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre ?
Oui, c'était clairement, pour résumer, la sécurisation pour les États-Unis de la fourniture de pétrole à moindre coût contre la garantie de sécurité pour les territoires saoudiens. Et c'est justement les fondements de ce pacte qui aujourd'hui ne tiennent plus, puisque d'abord les États-Unis sont devenus le principal concurrent des pays de l'OPEP+, c'est le principal producteur de pétrole, et aujourd'hui il exporte son GNL assez chèrement d'ailleurs aux pays européens.
Grâce au pétrole de schiste qui a été extrait notamment au Texas.
Au gaz de schiste, oui. Absolument. Et puis la décision, d'ailleurs, d'où les tensions récurrente depuis maintenant une dizaine d'années, la décision prise par le président Obama de se désengager un peu des conflits du Moyen-Orient et donc de se focaliser sur le fait de contenir la puissance et l'évolution de la puissance chinoise. C'est devenu et c'est resté le cap. Que ce soit sous Obama, sous Trump, qui était pourtant extrêmement lié aux autocrates du Golfe et même à Vladimir Poutine, et sous Biden plus que jamais.
Mais comment lire l'attitude?
Les pays du Golfe dénoncent, c'est-à-dire que la garantie de sécurité n'est plus là, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent, ils sentent que les États-Unis ne sont plus un partenaire aussi fiable qu'ils l'avaient été, le compte n'y est plus, donc aujourd'hui, la volonté des dirigeants du Golfe est de défendre leurs intérêts nationaux avant tout. Et cette décision au sein de l'OPEP+, est clairement... un changement de cap diplomatique de ces pays qui veulent au maximum aujourd'hui diversifier leurs relations parce qu'ils considèrent que plus ils multiplieront les partenariats avec d'autres pays, plus la sécurité de leur région sera garantie. Parce qu'ils ne peuvent plus du tout se fier à la seule garantie sécuritaire avec les États occidentaux et notamment les États-Unis.
Fatia Daziani, comment lire l'attitude diplomatique justement des pays du Golfe ? Parce que certes, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont voté la condamnation de l'agression de la Russie à l'Assemblée Générale des Nations Unies en mars dernier. Ils ont aussi condamné les référendums d'annexion des quatre provinces de l'Est de l'Ukraine. Mais enfin quand même, Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats Arabes Unis, était à Saint-Pétersbourg il y a 10 jours, au lendemain de l'attaque des Russes contre des infrastructures civiles ukrainiennes. Comment lire cette attitude diplomatique ?
C'est Oui, vous avez raison de le noter. C'est ce qui fait dire justement au président démocrate et à tout son camp, et relayé à grand bruit par les médias assez proches des démocrates, que cette décision est clairement s'aligne sur la Russie et sa guerre en Ukraine. Cependant, il faut voir aussi le fait que les autocrates du Golfe maintiennent le lien avec Vladimir Poutine comme une volonté de ne pas choisir son camp. Et on en revient donc au fait de se fâcher avec personne, ni avec la Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial et qui est véritablement la vraie cible pour les États-Unis. Hein. Et d'ailleurs, le président Biden, lorsqu'il a été à Jeddah au mois de juillet, il a rendu visite au prince héritier, qu'il avait pourtant qualifié de paria et qui s'était juré de ne plus jamais il s'était promis de ne plus jamais parler.
Mmh. Et bien, c'était après la mort de Khashoggi, hein, le journaliste saoudien qui avait été tué dans...
Évidemment, ce qualificatif de paria, pas parce que le prince héritier est directement impliqué en tant que commanditaire de l'assassinat de ce journaliste saoudien qui vivait aux États-Unis. Voilà. Et puis, effectivement, toute la rhétorique sur les droits de l'homme, la liberté d'expression, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une vague répressive extrêmement forte en Arabie Saoudite et dans tous les pays de la région. Le président Biden en difficulté à l'approche des élections de mi-mandat, et suite à cette guerre en Ukraine, contre son gré, a quand même été en Arabie Saoudite pour essayer de rehausser la relation. Mmh. Aujourd'hui, la virulence du président Biden tourne à la menace parce qu'il veut, 3 mois après son voyage à Jeddah, à nouveau revoir à la baisse cette relation. Donc les Saoudiens et les Émiratis, comme dans tout le Golfe, en lisant la presse, insistent sur la perte de crédibilité, le manque de cap du président Biden, qui selon eux, d'abord a fait une erreur politique en voulant à tout prix persuader les États de l'OPEP Plus de réduire la production et de s'en tenir à un baril de $80 afin que le président Biden puisse renflouer la réserve stratégique pétrolière américaine, alors même que le Parti démocrate avait dénoncé cet arrangement sous Trump, mais pour une valeur de $24. Donc ça, cette polémique a fait grand bruit, et d'ailleurs les Républicains s'en ont emparé. Mmh. Donc c'est clairement la focalisation sur les élections de mi-mandat qui font que c'est finalement les États-Unis qui politisent, et notamment le Parti démocrate, qui politisent ce débat sur la question de cette décision de l'OPEP+.
Oui, parce que le prix du carburant est un argument électoral, bien entendu. Juste pour revenir et pour finir sur l'attitude diplomatique des pays du Golfe, est-ce qu'ils peuvent vraiment jouer un rôle diplomatique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, sachant que les uns et les autres, en tout cas les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, ont déjà participé à des négociations, notamment en ce qui concerne les échanges de prisonniers, Fatia Demezi?
La preuve, il y a eu des échanges de prisonniers. D'ailleurs, quand on écoute bien, le président ukrainien, qui a pourtant pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de protester, de contester lorsqu'il n'est pas content, est extrêmement silencieux. Hein. On ne l'a pas du tout entendu critiquer le fait que Mohamed Ben Zayed ait été à Saint-Pétersbourg, ou évoquer l'impact de cette décision de l'OPEP+. Parce que, d'abord, les Saoudiens sont parmi les plus généreux donateurs, hein, en termes d'aide aux réfugiés ukrainiens, par exemple en Pologne, etc. Et le président ukrainien s'est à plusieurs fois félicité de l'action de ces pays du Golfe, qui seront certainement au rendez-vous lorsqu'il s'agira de reconstruire l'Ukraine. Donc il y a une volonté aussi du côté ukrainien de ménager les pays du Golfe qui, effectivement, arrivent à obtenir de temps en temps des gestes de la part de Vladimir Poutine. Et en dehors du président turc, c'est vrai que bah, il y a que ces deux autocrates et le président turc qui arrivent à obtenir de temps en temps des gestes du président Poutine. L'Occident, bien sûr, ne peut pas, étant donné
Il faudra d'ailleurs, il faut aussi être assez prudent sur ce qui concerne les relations entre les États-Unis et les pays du Golfe, sachant quand même que la sécurité de l'Arabie Saoudite dépend des États-Unis, qui est la première puissance militaire mondiale. Merci beaucoup Fatia Dazieni d'avoir été avec nous dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et spécialiste des monarchies du Golfe.
France Culture, l'esprit d'ouverture.